Aujourd'hui, on continue dans la Genèse. La dernière fois, on a entamé l'histoire d'Abraham. Abraham. Et on va relire quelques versets. Genèse chapitre 12. On va relire les versets 1, 2, 6, 7 et 9. Et après, on va prendre les versets qui concernent notre message aujourd'hui. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. 6 et 7, 9, et puis je vais continuer à lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Puis maintenant, on va simplement continuer la lecture jusqu'au chapitre 13, verset 2. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiennes te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiennes virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Aujourd'hui, nous parlons de nos choix et de leurs conséquences. Tout ce que vous faites a de l'importance, car toutes choses ont des conséquences, ou si vous voulez, des ramifications. Notre vie se résume en actions et réactions. Vous ne pouvez pas savoir si les ramifications de vos choix seront bénéfiques ou seront maléfiques, car vous ne pouvez pas gérer les conséquences. Mais vous pouvez honorer le Seigneur dans toutes vos voies. Donc, si on choisit de faire le bien, les conséquences auront tendance à être bénéfiques. Et si on choisit de faire le mal, eh bien les conséquences seront plutôt dans la même voie. Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, et versets 3 et 4, que la victoire, c'est notre foi. Donc, je vais lire dans 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi.
Excuse-moi. Oui? C'est quelle
référence? 1 Jean, premier épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. Je vais le relire. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, nous montrons notre amour envers Dieu en lui faisant le plaisir d'observer ce qu'il nous enseigne. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né, toute personne qui est née de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Jésus aussi nous dit de nous confier en lui jusqu'à faire l'impossible. Donc dans Marc, l'évangile, Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, versets 22, 23 et 24. Marc, chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Eh bien, c'est impossible. N'est-ce pas? Jésus encourage que nous devons avoir confiance en Dieu pour faire jusqu'à l'impossible. Comme faire jeter une montagne dans la mer, c'est impossible. Pourtant, Jésus dit que ça peut se faire, si Dieu veut bien, par la foi. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez à s'accomplir. C'est incroyable comme promesse que Jésus donne là. Aussi, nous avons dans Hébreux chapitre 11, et nous n'allons pas tourner là, mais le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux présente de nombreux exemples des victoire et aussi les défaits de la foi. Hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la foi qui réussit, mais il y a plein de monde qui ont réussi par la foi et il y a aussi qui n'ont pas réussi, qui étaient persécutés, qui étaient tués, etc. Mais ils ont gardé la foi. Alors, regardons donc un peu Abraham dans Genèse chapitre 10, chapitre 12 et verset 10. Donc, rappelez-vous, Abraham était un homme de foi. Le texte biblique dit que Abraham était l'ami de Dieu. En parlant de sa vie globale, n'est-ce pas? Mais il y a quand même eu quelques moments de doute importants. Hein? Et ici, on voit un exemple, même on va élargir ça à deux exemples. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Donc, il y a un problème. Il est face à une situation très difficile. Et on va voir que la première chose qu'Abraham a fait, c'était de partir au lieu de prier. OK? Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Et puis, chapitre 13, Abraham remonte de l'Égypte vers le midi, donc c'est le midi d'Israël. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il avait des choses avant, mais il était devenu encore plus riche en Égypte. Alors, en dépit des promesses que Dieu avait faites, on a parlé de ces promesses la semaine dernière, eh bien, Abraham a quitté la terre promise. Dieu avait dit que tu auras une grande postérité. Je ferai de toi une grande nation. Mais il y eut cette famine dans le pays, et au lieu de demander la volonté de Dieu et comment Dieu allait gérer ce problème, il a simplement réfléchi comme un homme et il est parti en Égypte. Il a quitté la terre promise, il s'est éloigné de la bénédiction de Dieu. Donc voilà, on a Abraham confronté par cet obstacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à un problème? Premièrement, il a quitté la volonté de Dieu. Ce n'est pas la chose à faire. Il a quitté la volonté de Dieu. Il a menti et a demandé, enfin obligé à sa femme de mentir aussi. Il a mis sa femme en danger quand il l'a vendue à Pharaon. Et il a mis les promesses de Dieu à risque. Parce que si Pharaon avait pu faire un enfant à Sarah, donc il n'y aura jamais eu d'histoire biblique. Nous voyons quand même que Dieu a protégé Abraham et Saraï, hein, parce qu'il dit que Dieu a fait beaucoup de plaies sur Pharaon et tout le pays à cause de Saraï. Ok, donc Dieu, il protégeait, mais quand même, il y a eu des conséquences. Et c'est ça la chose. Même si Dieu nous protège, quand on quitte la volonté de Dieu, et Dieu a dit fais ça, mais on ne le fait pas, ou il dit ne pas faire ça, et on le fait, on fait le contraire de la volonté de Dieu. Eh bien, on va récolter les conséquences. Bien sûr, il va nous pardonner, mais on ne peut pas toujours contourner les conséquences. C'est ça la chose, c'est ça le drame. Donc, il y a eu des conséquences. Par sa tromperie, Abraham est devenu très riche. On aurait pensé qu'il devrait rendre toute cette richesse, mais non. Il a gardé toute cette richesse. Par sa tromperie, il a reçu de nombreuses dons de serviteurs et de servantes. Une de ces servantes s'appelle Agar. Agar, l'esclave égyptienne. Alors, on revient. Dieu avait promis à Abraham une multitude de descendants. Et Sarah, lui, a proposé de coucher avec Agar afin d'avoir un enfant. On voit ça dans chapitre 16. Genèse chapitre 16. On va lire seulement les versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc Sarah lui propose de coucher avec sa servante et d'avoir les enfants. Abraham, tout de suite, a cherché la volonté de Dieu. Non, il connaissait déjà. L'adultère, c'est un péché. Et pourtant, il n'a pas donc cherché la volonté de Dieu. Non plus, Abraham n'a pas repris sa femme qui avait proposé cette folie. Quand on voit le texte, il ne fait aucune objection. Il est peut-être tout content d'avoir une seconde femme. Il a pris plaisir dans son adultère avec Agar. Eh bien, il continuait à s'éloigner de la volonté de Dieu. Et, comme vous savez bien, un fils lui est né, qui sera plus tard l'ennemi des enfants d'Israël. Conséquence. Conséquence déjà de quitter la volonté de Dieu, de rester dans la terre promise, après de faire des mensonges, après de recevoir les dons sur la base de son mensonge, d'écouter sa femme dans cette question d'adultère. Toutes les conséquences, toutes les ramifications de nos choix. Mes amis, nous voulons suivre dans les traces de la foi d'Abraham, mais nous ne devons pas suivre dans les traces de ses incrédulités. Nous devons fondre notre vie sur la parole de Dieu. Les vérités, les promesses. Quand Dieu dit « faire ceci », on veut le faire. Quand il dit de ne pas faire cela, on ne veut pas le faire. Quand il dit « le sage va agir d'une certaine manière », on va agir de cette manière-là. Et que ce sera pas sage d'agir de cette manière-là. On ne va pas faire cette chose-là. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse en agissant contre sa volonté? À l'autre côté, c'est vrai que même si on suit, on met en pratique les principes de la sagesse, il n'y a rien qui assure que nous allons réussir. Mais les enseignements de sagesse, comme dans les proverbes, nous donnent la tendance. La tendance est que celui qui travaille prospère. C'est la tendance, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est la tendance, hein? C'est ça la sagesse. Je voudrais lire quelques versets dans le Nouveau Testament, de Marc chapitre 11. C'est dans le texte qu'on a déjà lu une fois, tout à l'heure, mais je voulais surligner le verset 23, Marc chapitre 11, verset 23. dans la petite phrase là, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Dieu veut qu'on agisse de manière affirmative, toujours soumis à sa volonté, parce que Dieu n'est pas comme un génie. Et on dit, je voudrais ça, je prie pour ça et Dieu va le faire. Non, mais c'est agissant dans la volonté de Dieu, nous allons vouloir la volonté de Dieu, nous allons prier pour que Dieu exerce sa volonté et Dieu va faire sa volonté. C'est pour cela qu'il dit, croyez que vous l'avez reçu. Aussi dans Jacques, chapitre 1, l'épître de Jacques, chapitre 1, les versets 5 à 8. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce que Abraham n'a pas fait quand il a pris la décision de partir en Égypte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je souligne. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, un homme qui est agité, qui est dans le doute quand il demande quelque chose à Dieu, et puis qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu agit selon notre confiance. Quand on doute, quand on est dans l'incertitude, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. Dieu répond à notre confiance. Douter est semblable à l'incrédulité. Imaginez Abraham qui est là. Dieu dit, voilà ton pays, je te le donne. Et puis il parcourt le pays et puis il constate cette famine qui s'aggrave. Et il commence à avoir des doutes et de l'incertitude, de l'instabilité et enfin de l'incrédulité. Je ne peux pas rester dans la terre promise parce que je mourrai de faim. Je m'en vais. C'est un cheminement là. Dans le doute et dans l'instabilité, vous risquez de choisir les solutions qui sont rapides et faciles. Partons en Égypte, il y a de la nourriture là-bas. Rapide et facile. Les solutions humaines, purement humaines, je veux dire. Les solutions raisonnables, pourquoi pas. Les solutions rapides. Charnel. Mais faites attention, car la parole dit, si on sème pour la chair, on va récolter pour la chair. Si on sème pour le monde, on va récolter pour le monde. Si on sème le mal, on va récolter le mal. Donc on doit faire attention dans nos choix, parce que on va récolter les conséquences et les ramifications. Heureusement, Dieu pardonne. Dieu a pardonné à Abraham. Il n'a pas enlevé toutes les conséquences, mais il a quand même pardonné. Dans Genèse chapitre 15, je vous fais sauter à droite et à gauche dans la Bible aujourd'hui. Dans la Genèse chapitre 15, au verset 1, nous lisons Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand il est parti en Égypte auparavant, il avait peur. Il craignait cette famine. Il est parti. Mais là, c'est quelques temps plus tard. Et Dieu dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Quand il dit, je suis ton bouclier, c'est comme il dit, viens t'abriter derrière moi. Refugie-toi derrière moi. Je vais te protéger. Je prendrai soin de toi. Question, pouvez-vous faire confiance à Dieu dans les circonstances difficiles? Dans les circonstances difficiles, pouvez-vous faire confiance à Dieu? La réponse est oui, vous pouvez, mais est-ce que vous allez le faire? Aussi dans Psaume 46, verset 2, nous lisons, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Comme on a chanté tout à l'heure, il est là pour nous aider. Si nous sommes dans sa volonté et si nous avons confiance en lui. Ça, c'est deux conditions quand même. Je voudrais lire dans 2 Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. De Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Donc, il n'y a pas d'instabilité dans l'évangile. Dieu est fidèle. Il n'y a pas d'instabilité en Dieu. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Il n'y a que oui. Il n'y a que amen. Dieu, il va tout droit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En Dieu, il y a le oui. Quand Dieu dit, ce sera comme ça, ce sera comme ça. C'est le oui. Dieu ne peut pas dire le contraire ou faire le contraire de ce qu'il avait promis. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore le Amen, c'est pourquoi encore le Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand nous prions, nous disons Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu, qui nous a marqués d'une manière spirituelle et éternelle par son Saint-Esprit. Donc Dieu va accomplir toutes ses promesses. Le point étant, comme on a vu dans la première partie du verset 18, Dieu est fidèle. Pas dit que nous sommes fidèles, mais Dieu est fidèle. Et nous devons être fidèles, mais Dieu est fidèle. Mes amis, puisqu'il y aura certainement des conséquences à nos choix, à vos choix, je vous encourage à s'aimer le bien, à s'aimer selon la foi, à chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Pas chercher la volonté de Dieu après avoir agi. C'est trop tard. Il y aura des conséquences. À fonder votre vie sur la parole de Dieu. Tout ceci contribuera à obtenir des conséquences bénéfiques. Donc, évitez les solutions faciles, purement humaine, charnelle rapide. Comptez sur Dieu, il est fidèle. Et comme on a lu dans le premier épître de Jean, la victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.